Tout de suite donc sur les docks. Avec vous Irène, et comme chaque lundi, le programme de la semaine.
Eh bien, au programme Hervé Gardette, quatre facettes d'une même fondation. Jeudi, sur les docks avec Kaina, Ivo, Jiggy et Samuel, qui lors d'un cursus de 9 mois, réalisent un court-métrage à la Fémis. Mercredi, nous entendrons des élèves qui s'orientent vers l'architecture à Bordeaux. Mardi, nous serons à la Source, avec Gérard Garouste, pour suivre le parcours de futurs dessinateurs venant de Gennevilliers. Et aujourd'hui, Claire Pouli nous conduit à Versailles, où a lieu un championnat d'improvisation.
Et toutes ces activités sont en lien étroit avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que le ministère de la Culture et de la Communication.
Oui, Hervé, bien des liens se sont créés depuis 2006, où sous l'impulsion de Marc Ladré de La Charrière, la Fondation Culture et Diversité s'est engagée pour modifier les inégalités sociales et permettre à tous les élèves, qu'ils soient collégiens ou lycéens, de découvrir et avoir accès à ces formations que l'on dit volontiers réservées à une élite.
Oh, vous savez faire des choses tellement bien, en fait, moi, des bons petits bourgeois, des plombiers, des bouchers, des bûcherons, faites ce que vous voulez. Mais pas près de faire des racailles, ça, c'est bon, on en a déjà vu, ça a été fait.
On en a marre maintenant des racailles.
À part une fois, si le contexte il est bien, mais sinon ça sert à rien.
Mais c'est quoi notre cri de guerre?
Vas-y, bah fais-le.
Vas-y, Lilo, quel est votre métier?
Impro! Impro! Impro!
Voilà! Allez, encore une fois! Lio!
Quel est votre métier?
Impro! Impro! Impro!
C'est comme ça!
Lio! Quel est votre métier?
Impro! Impro! Impro!
Allez, c'est bien!
Et quand on finit un match, on n'oublie pas de checker! Hein.
Ouais. Improviser, oui, ça le fait! L'impro, on l'a sur nos maillots! L'impro, on l'a tous dans la peau. Improviser, c'est ça qui me plaît.
Les maillots, tous les maillots sont larges. Ils sont plus grands que soi.
Numéro 14.
Moi, c'est numéro 14, c'est taille S, alors que je fais du 12-14 ans. Il y a du orange, il y a du blanc, il y a du noir. Il y a des formes rectangulaires et longues.
Mais c'est un maillot de sport, ça?
En quelque sorte, ouais.
C'est du sport, en fait, l'impro.
On peut dire ça comme ça, ouais.
Fondation Culture et Diversité, l'impro, on l'a tous dans la peau. Un documentaire de Claire Pouli-Borgeau et Anna Smuc.
Allez, on va écouter la dame.
Ça commence. Alors, il y a 4 équipes, c'est ça?
Oui.
On m'a dit qu'il y avait Rochefort, Bordeaux,
Lille
et Brest.
Ouais, Brest!
Ouais. Bah, bienvenue à tout le monde.
Merci.
Donc, j'imagine que pour tous, c'est la première fois que vous venez dans ce théâtre.
Oui. Oui.
D'accord. C'est un des plus vieux théâtres de France, qui date de 1777. Donc, le roi et la reine étaient à cette époque...
Louis XVI.
Ouais, Louis XVI et Marie-Antoinette. Vous avez vu qu'en plus, on est dans le parc du château de Versailles, on est tout à côté. Vous tenez la porte les uns les autres. Faites pas de bruit parce que les techniciens sont en train de travailler. Le théâtre, c'est un lieu où on vous fait entrer dans le monde de l'illusion, dans le monde du rêve, du décor. Et le décor, il n'est pas uniquement sur scène. Il y a toute la salle qui participe à vous faire entrer en fait, dans le mystère de chaque pièce de théâtre. D'ailleurs, à l'école, peut-être qu'on vous a déjà parlé de l'illusion théâtrale. En fait, c'est le fait de se laisser embarquer dans quelque chose qui nous fait passer de la réalité au virtuel. Mais ce qui est magique ici, c'est que le virtuel ne passe pas par un écran, il passe vraiment par des personnes. C'est tout ce qu'on appelle le spectacle vivant. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous serez sur scène, vous allez vraiment goûter à ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont l'habitude de faire du théâtre, mais voilà, quand on est face à sa télé, on peut hurler, on peut applaudir, la télé ne s'en rendra jamais compte. En revanche, quand vous allez assister à une pièce de théâtre, à un opéra ou à un ballet, si vous applaudissez, si vous riez, si y a des sursauts, voilà, il y a vraiment une relation qui se crée entre le public et les artistes. Est-ce que vous avez des questions ?
C'est du vrai or ou pas ?
Et ça, c'est restauré à la feuille d'or, oui. Donc ça veut pas dire que c'est de l'or massif, hein. C'est pas, t'imagines, le volume, ça serait des lingots d'or et on se ferait voler, à mon avis. Alors, on va monter au troisième. Comme ça, vous aurez un autre point de vue de la salle. Donc, si vous avez un peu le vertige, vous vous penchez pas. Vous serez beaucoup plus près du plafond, le lustre. Vous verrez bien la fosse d'orchestre. Il y a plein de choses à voir quand on va au troisième.
Savoir qui on est, où on est, ce qu'on fait. Voilà les clés d'une improvisation réussie. Et c'est aussi ce que la Fondation Culture et Diversité veut offrir aux jeunes issus de milieux modestes. L'improvisation théâtrale, comme outil d'épanouissement personnel et pour une société plus harmonieuse, est un des piliers de l'action de la Fondation d'entreprise créée en 2006 par Marc Ladret de la Charrière. Cet homme d'affaires français, président du groupe Fimalac, a doté sa fondation de 15 millions d'euros et entend agir dans la société pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. À ce jour, 23 000 élèves bénéficient de 24 programmes qui s'articulent autour de deux axes. Éducation artistique à l'école et accompagnement individuel aux grandes écoles de la culture. École du Louvre, FEMIS, École d'architecture, Institut national du patrimoine, etc. La liste est longue et rien ne doit être inaccessible à ces jeunes, pour la plupart issus de zones d'éducation prioritaires. Mais aujourd'hui, place au théâtre, dans les plus beaux lieux, à Versailles, à Paris, à la suite des élèves des collèges de Brest, Rochefort, Bordeaux, Lille et Trappes, pour assister tous ensemble au grand trophée d'impro culture et diversité.
Alors vous installez discrètement. Vous êtes dans une vraie loge là.
Oui.
Une loge d'artistes. Qu'est-ce que vous faites?
Je lis ces jeux pour le spectacle, je le prépare. J'attends qu'il chante bien.
On est en train de se préparer.
Le plus dur aujourd'hui, ça sera stress. Surtout de voir tous nos amis qu'on a à Lille, ça va être chaud. Ouais, ça. Encore, moi ça va, je l'ai vécu l'année dernière. Mais j'ai quand même le trac. Ouais.
C'est le fait que tous les autres te regardent?
Non, c'est pas ça, c'est juste voir des gens comme ça, qu'on connaît pas, et qu'il va falloir jouer devant eux. Ça fait un peu de, les boules de dire qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Ça joue sur le truc. Faut que je pense que je joue bien. Et que les gens pensent de moi que je joue bien. Là, je serais vraiment dans le truc.
Et vous jouez bien ensemble?
Ouais, surtout ensemble. C'est ce fameux ensemble qui va souder tout le monde. C'est vraiment ça qui va faire jouer tout le monde d'un punch très énergique. Parce que comme on va jouer devant 400-500 personnes, se calmer, il y aura papy. Surtout pour moi, surtout papy, c'est conclu que je stresse un peu. Bah, papa, c'est eux improvisateurs, quoi. C'est the big boss, quoi. Donc c'est devant lui, va falloir bien jouer, surtout pour être qualifié à Paris. Faut jouer grand, là. Faut jouer très gros.
À partir du moment où Mariam est dans le cercle, ça commence.
Bon.
Ok.
Vas-y, on commence.
Ah non.
Zip, Schlaga, boule de bowling, blablabla.
Zip,
Schlaga.
Zip, allez plus vite.
Zip.
Je
laisse.
Je prends Zip.
Le cadre est sportif, mais ça reste quand même, on est dans un théâtre, ça reste un spectacle au sens culturel du terme. Il y a un habillage du sport. Il y a la patinoire, il y a les maillots, il y a l'arbitre. Mais c'est pas un arbitre de foot, c'est pas un arbitre ça. L'arbitre, on voit bien, il est obligé d'expliquer pourquoi il siffle la faute. Il siffle pas la faute que comme ça, il est obligé de s'expliquer devant les capitaines et devant le public. Et là, l'arbitre, il a un rôle pédagogique, éducatif au théâtre. Parce que ce qu'il va renvoyer, c'est simplement des notions de théâtre, de jeu, pour se donner encore mieux à voir, d'être plus efficace au jeu de théâtre.
Et quelle est l'histoire de ces improvisations, de ces tournois d'improvisation?
Alors l'histoire, moi j'ai commencé à mettre ça en place en 90 à Trappes. Dans les Yvelines, et a commencé à travailler dans les collèges et les lycées de la ville. Et il se trouve que, au bout de quelques mois, je me suis retrouvé avec 600 élèves qui faisaient de l'impro dans ma ville. Et on a monté des tournois au lycée, des tournois au collège. Et à partir de là, je me suis dit, je n'ai jamais arrêté de développer ça. Et donc, on a eu une dizaine de collèges qui ont fait de l'impro. Et ensuite, il y a quelques années, il y a Jamel qui faisait partie de ses premiers joueurs qui m'a dit, écoute, papy, j'ai eu la chance de faire ça avec toi. Voilà où ça m'a amené. Écoute, ça serait super si on pouvait mettre l'impro partout en France. Et je lui dis, c'est possible, mais il faut trouver des partenaires qui veulent bien nous soutenir financièrement et tout. Il a décroché son téléphone et Léonore Ladré de la Charrière était là. Et Marc Ladré de la Charrière aussi est venu à Trappes voir ce qu'on faisait. Et là, il a dit, banco, je pars avec vous. Et on monte ce trophée national Culture et Diversité avec la Fondation Culture et Diversité.
Vous allez dans la loge avec eux.
J'ai envie d'aller au début de chaque île, j'ai l'impression. Mais je sais que t'es pas d'île, mais t'arrêtes pas de traîner.
Je vous rappelle que le trophée d'impro culture et diversité se passe aujourd'hui au collège, dans le cadre périscolaire, dans des collèges d'éducation prioritaire, travailler sur des modalités en lien avec les équipes pédagogiques et administratives pour savoir s'il s'agit de l'accompagnement éducatif, des cours complètement sur la base du volontariat en hors scolaire, etc. etc. Voilà.
Je m'appelle Mbaye Samb, je viens de Bordeaux. Je suis content parce qu'on joue dans le théâtre du roi et de la reine. Cette chance-là, on l'a fait une fois dans la vie de jouer là-bas.
Vous avez vu ma violence?
Je sais pas, peut-être plus tard je pourrais jouer ici.
Marc de la Charrière, pourquoi avez-vous choisi le domaine de la culture pour œuvrer dans la cité?
À 14-15 ans, nous considérons que la discrimination la plus forte qui existe pour ces jeunes-là, c'est justement l'aspect culturel. Et donc, il y a toute une série d'autres actions qui sont des actions sportives, des actions de tout, que vous connaissez mieux que moi. Mais dans le domaine culturel, nous avons considéré que la discrimination était extrêmement forte. Et si nous voulons aller à une société plus harmonieuse, il ne faut pas qu'il y ait des jeunes qui viennent ensuite, des adolescents qui viennent ensuite des adultes, qui soient discriminés dans toute une série d'activités qui fait justement le rayonnement culturel du pays et qui leur permet aussi d'avoir des échanges entre eux. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous avons choisi la culture.
La cohésion sociale, pour vous, passe par la culture, par la connaissance de cette culture?
Il ne peut pas y avoir de mixité sociale s'il n'y a pas un même langage. Et si les langages sont trop discriminants, puisque chacun sera dans un domaine spécialisé, comment voulez-vous qu'il y ait des échanges? Ce n'est pas possible. Donc si vous voulez éviter si vous voulez créer de la mixité sociale, le domaine culturel et l'éducation artistique et l'éducation culturelle est quelque chose de fondamental parce que ça permet de partager le langage. Et c'est une des choses les plus importantes qu'il faut créer parce que s'il n'y a pas de langage, il n'y a pas de compréhension. Et s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de mixité sociale. Et s'il n'y a pas de mixité sociale, il y a indépendance d'action au sein d'une société.
Bonjour professeur.
Bonjour.
Voilà. Un petit point sur les résultats, soit d'admissibilité, soit d'admission, au concours des grandes écoles de la culture qui sont nos partenaires et pour lesquelles nous mettons en place des programmes d'égalité des chances. Louis Lumière, les premiers résultats d'admissibilité sont tombés. Nous avons 8 élèves admissibles sur 22 candidats. Donc on est à 36%, un peu plus de 36% d'admissibilité. Pour la FEMIS, nous avons 4 élèves admissibles au premier tour sur les 15 candidats, plus un élève du programme Louis Lumière qui a aussi passé le concours de la FEMIS. Pour l'INP Restaurateur, c'était la première année. Nous avions 5 jeunes étudiantes en diplôme des métiers d'art boursière que nous accompagnions. Il y a eu 3 admissibles et in fine une admise et une sur liste complémentaire, c'est-à-dire première sur liste d'attente. Et puis, je laisserai peut-être la parole à Claire qui, je ne sais pas si on avait parlé, a mis en place.
Vous voyez, je crois que il y a... Vis-à-vis des jeunes, il y a d'abord la première lutte à effectuer, c'est la discrimination de l'information. C'est fondamental, parce que en réalité, ils ne savent pas qu'il existe, par exemple, des écoles culturelles. Ils ne savent pas que ça existe. Donc, l'un des aspects les plus importants, c'est de lutter contre cette discrimination de l'information, qu'ils puissent savoir que ça existe. La deuxième responsabilité, c'est dire que on leur donne de la considération. Ça veut dire quoi, donner de la considération? C'est dire que ces écoles-là sont aussi pour eux, qu'elles ne sont pas que destinées à une certaine classe sociologique, et qu'ils ont aussi le droit que les autres d'y aller, et ils ont tant les capacités que les autres d'y aller. Ça, c'est le second point important. Le troisième point important, c'est leur donner la possibilité de se former, et donc de les faire venir à Paris, pour passer les concours, les examens, etc., de les former. Et quatrièmement, une fois qu'ils ont été formés et admis, à ce moment-là, leur donner des bourses pour pouvoir vivre à Paris ou dans les lieux où se trouvent ces écoles. Mais ça vient en quatrième.
Nous avons les collèges Jean-Philippe Rameau, Raymond Poincaré et Hoche de Versailles. Ouais. Le collège Alexandre Dumas-Ménoncourt.
Tous les gens qui sont là sont mus par une volonté d'égalité des chances et d'aller vers les élèves qui en ont le plus besoin pour leur faire du bien. Ça, c'est certain. Quand vous voyez Gilles Kepel qui travaille sur les banlieues, quand vous voyez Jean-Michel Ribes qui a ouvert son théâtre depuis très longtemps, ce ne sont que des gens qui sont portés vers les autres et pour faire bouger. Et puis, ils ont aussi tous cette caractéristique, c'est de faire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des discoureurs, ce sont des gens qui font.
Éléonore de la Charrière, vous êtes déléguée générale de la Fondation Culture et Diversité. Cette fondation a été créée en 2006. Est-ce que depuis 2006, l'activité est exponentielle? Est-ce que vous avez l'impression que ça explose un peu?
Là où nous avions 2 programmes d'éducation culturelle et artistique avec le Théâtre du Rond-Point et La Source, 9 ans après, ces 2 programmes continuent d'exister, mais effectivement, nous en avons créé 7 autres. Là où nous n'avions qu'un seul programme d'accès aux études supérieures en 2006, c'était avec l'École du Louvre. Et c'est vraiment grâce et avec l'École du Louvre qu'on a construit cette méthodologie qui, depuis, a été dupliquée dans 11 autres typologies d'écoles, écoles d'architecture, écoles d'art, écoles de design, FEMIS, etc. Voilà. Donc, on a en fait très très rapidement au sein de la Fondation, dès 2006, structurer notre action autour de ces 2 axes et avec une méthodologie très précise qui depuis a été reconnue par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Et puis voilà, on a développé ensuite dans différents champs artistiques et avec différentes écoles, mais on essaie en tout cas de rester très cohérent par rapport à notre mission de départ.
Quelle est la philosophie justement de cette fondation?
Avant tout, ce qu'on essaye de voir, c'est l'épanouissement des élèves. C'est comment est-ce qu'on se sent bien par la pratique artistique, d'abord avec soi-même, ensuite dans le petit groupe atelier, classe, établissement scolaire, et plus largement dans notre société.
Voilà, merci beaucoup. Un match d'improvisation se doit d'être joué dans les règles. Et pour faire respecter les règles, il faut bien sûr quelqu'un. Cette personne est habillée de rayures. Cette personne est assistée de Monsieur Cédric et de Monsieur Morgan. Accueillez comme il se doit, Monsieur l'arbitre, Papy.
Je crois que c'est donner un espace de jeu. C'est-à-dire que là, vous rentrez chez les jeunes et vous leur reconstruisez un espace de jeu, où ils vont pouvoir s'exprimer, donner à voir, se donner à entendre, et de jouer ensemble. Et donc, il y a quelque chose de très ludique, de très de trouver aussi tout l'appétit, il y a la création, tout ce qui est lié à la création. Créer, c'est vivre. Créer, c'est être avec l'autre et d'inventer des histoires et de trouver cette magie en soi, d'ouvrir à qu'est-ce que j'ai dans mon patrimoine culturel commun avec l'autre pour pouvoir créer des histoires. Et là, il y a une forte, on a bien une pression temporelle forte. Et du coup, dans cette pression temporelle, j'oublie mon angoisse, ma peur de se donner à voir et tout. Et je joue et je crée des histoires avec l'autre. Et c'est tellement bon de créer des histoires avec l'autre. C'est ça le bonheur. C'est pouvoir créer de l'illusion qui donne du plaisir à ceux qui regardent. Formidable.
Improvisation mixte.
Allez, on y va.
Ayant pour titre, En équilibre sur l'équateur.
What?
Nombre de joueurs illimités.
C'est quoi l'équateur?
Catégorie à la manière du film de science-fiction.
Bon, okay. Science-fiction.
Durée de l'improvisation, une
minute. Non, moi, je peux pas, je pas du tout la science-fiction.
Ok. C'est un personnage qui est entre l'équateur, c'est la partie gauche, et l'équateur. Et sa mute, c'est à passer de la
côte. C'est plutôt, vaut mieux, au lieu de faire une maison, vaut mieux que ce soit nous qui soyons en équilibre.
Voilà, oui.
En équilibre sur l'équateur, c'est science-fiction, donc si tu vas à droite, ouais, tu te transformes en
démon,
si tu vas
démon,
en gauche,
paradis,
c'est normal.
Démon paradis, oui, démon paradis.
D'accord,
démon
ça
paradis,
marche.
Démon paradis, démon paradis.
Mais c'est science-fiction,
paradis,
hein, d'accord.
Ouais, donc plein de bestioles.
Ouais.
Dragon.
Alien.
Dragon.
D'accord. Non, c'est plus alien, c'est pas dragon. D'accord. C'est plus alien. Allez, vas-y. Dépêche-toi.
C'est magique d'amener... ces jeunes qui seraient jamais, puis c'est peut-être passé devant sans jamais pousser la porte, leur permettre de pousser une porte d'un théâtre, leur permettre de monter sur scène et de se donner à entendre dans un spectacle comme ça devant un public, c'est juste leur donner envie de revenir voir ce qui s'y joue et leur prendre goût, faire goût. Ça veut dire quoi? C'est comment faire peut-être pas tous des comédiens parce qu'ils ont pas tous cette fibre là, mais au moins des spectateurs et avoir des gens qui sortent et qui ont envie d'aller voir du théâtre, du spectacle vivant. Déjà, ça serait énorme.
Tu tiens sur l'équilibre, je vois.
Oui, mais si je mets un pied de ce côté, regarde.
C'est le tonnerre.
Ah, d'accord.
C'est cool.
Ouais, c'est cool.
Et là, il fait trop chaud.
Ah, bon, on va plus rester pendant la
journée. Ah, mais touche-moi, là.
Oh, je suis désolée.
Tu vas régler. Tu vas dérégler toute la température.
Ah, carrément.
Bah ouais.
C'est chelou comment ça fonctionne.
Bah oui, tu croyais que c'était Monsieur Météo France qui faisait tout. C'est moi.
Là, je pense qu'il y a vraiment, vraiment une nécessité à travailler dans ce type de spectacle et de discipline théâtrale. J'espère que ça va continuer à se développer avec la même force que ça a aujourd'hui.
Il y a une fraîcheur dans leur façon de se jeter sur scène. Et puis, il y a un déclic. Vous, votre association s'appelle Déclic Théâtre.
Oui, oui, tout à fait. Quand j'ai créé la compagnie, effectivement, on l'appelait Déclic Théâtre parce qu'on voit bien que c'est ce qui se passe. D'un seul coup, il y a une prise de conscience de ce que c'est que d'être comédien, d'être acteur, une prise de conscience de cette capacité qu'on a en nous à créer, une prise de conscience de tout ce qui peut être utile pour créer des histoires. C'est-à-dire que d'un seul coup, je m'aperçois que je maîtrise un certain niveau, de plusieurs niveaux de langage. Alors que au quotidien, je sais pas, ils vont peut-être tourner avec 400 mots, 500 mots, et là, d'un seul coup, ils s'aperçoivent que dans leur mémoire, il y en a beaucoup plus que ça, mais qui ne sont pas usités. Donc, d'un seul coup, pour faire bien, parce que dans l'histoire, d'un seul coup, il faut être un chevalier ou un roi, ben, il va élever son niveau de langage, il est obligé de trouver des solutions. Alors, des fois, la grammaire en pâtit un peu, mais c'est pas grave. On y va, on triture, on joue du verbe, et donc, on en a moins peur. Donc, forcément, après, certains que je revois 10 ans, 15 ans, 20 ans après, là, j'ai encore reçu un message hier d'une jeune femme qui me dit « Mais papy, écoute, j'ai fait Sciences Po grâce à l'impro, j'ai continué, merci. » Voilà, t'as des trucs comme ça, parce que d'un seul coup, elle dit « Bah, je me suis senti libéré d'un poids, d'un regard sur moi qui était peut-être pas positif. Et je sais, avec l'impro, que j'avais des choses positives en moi, que je pouvais donner à voir et à entendre. » Bon, voilà, super.
Et pourquoi c'est si important de raconter des histoires aux autres?
Mais c'est raconter, parce qu'on fait ça depuis la nuit des temps, raconter des histoires. C'est ce qui nous construit. Raconter des histoires, il n'y a rien de plus beau. L'illusion, le virtuel, c'est beau. Et c'est plus fort que des fois que la réalité. Et de s'apercevoir qu'on peut raconter des histoires, les partager, que ce soit comme ça, de façon, comment dire, intuitive. Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est intuitif. C'est d'un seul coup, c'est ça. On embarque dans une histoire. Il y a de l'émotion avec. On va suivre cette histoire. On sait pas. Puis là, c'est fragile. On sait pas si ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter à tout moment. On va peut-être pas voir la chute. Donc, il y a un suspense incroyable. Et on fait partager ça aux autres. C'est vraiment une histoire de partage.
Improvisation mixte ayant pour titre La reine de la boussole. Nombre de joueurs illimité. Catégorie libre. Durée de l'improvisation 1 minute 54 secondes.
Le temps passe, oui, le temps, le temps, le temps, le temps, oui, le temps, oui, mais le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps passe, le temps passe bien trop vite.
Je m'appelle Cisco et voilà, mes collègues Olive et Fred du groupe Olive et ses noyaux. Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on accompagne les ligues de tout type et de toute forme, un peu partout en France.
Quelle est l'histoire de ces matchs d'improvisation? Ça vient d'où, en fait?
Alors, au départ, ça vient du Québec. Donc, ça a été inventé par deux hommes de théâtre québécois qui, à la fin des années 70, se désolaient de voir les salles de théâtre se vider au profit des salles de sport. Et bien évidemment, le sport roi au Québec, c'est le hockey sur glace. C'est pour ça qu'ils ont une idée incroyable. Ils ont décidé de prendre tout le décorum, en fait, pour utiliser la patinoire rouge et blanche comme dans les matchs de hockey, les maillots rayés blanc et noir pour les arbitres exactement à la façon des matchs de hockey, et les t-shirts larges qui sont normalement les t-shirts qui vont sur les, tu sais, sur les armatures qui protègent les joueurs de hockey qui peuvent des fois avoir des contacts assez vifs. Et donc du coup, ils ont eu l'idée de reprendre ce décorum et de faire en sorte que deux équipes qui font du théâtre vont, entre guillemets, s'affronter dans cette espèce d'aire de jeu qu'on appelle la patinoire, et c'est le public qui va cette fois-ci avoir un rôle prépondérant, puisque c'est lui qui va décider de l'issue du match en votant à chaque reprise pour l'improvisation qu'il a préférée. D'où en fait le suspense lié à ce spectacle, parce qu'en effet le public est vraiment acteur aussi à part entière de la soirée, du spectacle, puisque c'est lui qui va déterminer l'issue du match. Ce moyen de communication, cette façon d'aborder le théâtre, qui est assez ludique aussi, mais qui nous, dans le cas aussi du travail qu'on fait avec les collégiens, qui nous aide énormément à leur proposer de la culture, mais sous un angle ludique, sous un angle un peu sportif, entre guillemets, mais mine de rien, les catégories qu'on leur propose, c'est à la façon de Molière, donc c'est tout un langage incroyable, dont ils n'ont pas forcément au départ la passion, et voilà, et donc d'aller découvrir des auteurs, d'aller découvrir Shakespeare, d'aller découvrir des mondes.
Bonjour madame.
Attendez un bon signal seulement.
Ils sont pressés, ces Bretons.
Merci.
Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui?
Ah, ça va bien.
Alors, nous avons décidé de construire un nouveau château. Donc, nous voulons vous demander dans quelle position voulez-vous le mettre?
La position, donc, attends, je réfléchis. À l'ouest, s'il vous plaît.
Ouais, la Bretagne, ouais, ça c'est bien. franchement, alors, moi je propose Brest, c'est vraiment très bien, Brest. Le château, très grand. Ouais.
Et pourquoi pas l'Afrique, par exemple?
Bah, si vous préférez, hein, je sais pas. Ouais, c'est bien.
Donc, on va le mettre à Brest, c'est mieux.
Je suis d'accord.
C'est bien, hein. Il n'y a pas de trésors là-bas?
Oh si, plein, plein, plein.
Il n'y a pas des poulets, par exemple?
Oh si. Plein de poulets.
Voilà. Viens ici, toi. On va te halaliser.
Julie Macaire, pourquoi vous, professeur de français, vous êtes impliqué dans cette activité, dans cette aventure?
Alors moi, je suis intéressée de voir les élèves dans leur ensemble, c'est-à-dire à la fois en classe et en faisant un cours de français, mais on a une autre relation quand on est dans l'atelier. Dans l'atelier, on peut, par exemple, s'appeler par nos prénoms, on peut avoir un autre rapport à l'élève. On s'autorise davantage, comme eux, ils s'autorisent davantage aussi quand ils viennent faire de l'impro dans l'atelier. Ils sont beaucoup plus nature, on lâche un peu nos rôles. On rentre dans des personnages tous. Moi, je participe aussi et je rentre aussi dans les personnages. On les incite. Donc, je change un peu mon rôle, mais je veux dire, les valeurs qui sont transmises sont les mêmes. On est dans l'échange, on est dans l'écoute, on est dans le respect de la règle. Il y a des fautes qui sont sifflées quand on n'a pas respecté les règles. Et c'est une pédagogie du détour, parce qu'au final, les élèves respectent en impro, peut-être davantage qu'en classe, les règles, parce qu'ils se sentent complètement acteurs de leur improvisation.
Alexandre, 12 ans, Lafayette, Rochefort, Firdos, 14 ans, le village Trappes. Léa, 14 ans, Aliénor, Bordeaux.
Maya, 13 ans, Aliénor, Bordeaux.
On peut partager des choses sans forcément que ça soit un copain. En quelques secondes, en impro, on a déjà le copain. Enfin, c'est émotionnel aussi.
J'étais déjà pas très timide, mais ça m'a quand même apporté pour l'expression orale. Et puis, comme disait Alexandre, le partage, l'histoire de la rencontre, elle se fait beaucoup plus rapidement. Même là, on se connaissait pas. Ça y est, on est tous les meilleurs amis du monde, alors que ça fait 2 jours qu'on ne se connaît. Mais voilà, c'est vraiment génial par rapport à ça.
Ben moi, ça m'apporte du plaisir. On rencontre des gens. Et puis, j'étais coincée. Vraiment, au début de l'année, j'étais coincée. Et ça m'a décoincée. Et c'est le théâtre d'impro. C'est un endroit où je me libère de mes soucis.
Ici, par exemple, je rencontre des gens que je pourrais jamais rencontrer en temps normal, qui viennent pas du tout du même milieu que moi. Il y a autant des gens un peu riches que des gens qui viennent plutôt des banlieues et qu'on connaît pas. Et voilà, ça permet de dépasser les a priori qu'on a sur les différentes classes sociales. Et en fait, je sais pas, tout le monde est sympa. C'est juste une histoire de personnalité. C'est que tout le monde peut accéder à ça. C'est pas, ah non, moi là je suis dans ce collège, je peux pas, ceci, cela. Non, non, c'est tout le monde a la possibilité de le faire. Donc c'est vraiment une chance.
Chut, je suis le diable. Je te veux du malheur. Je vais souffrir. Le Dieu m'a envoyé en enfer. Je vais venir me rejoindre. Avance devant moi.
D'accord. J'arrive.
Agenouille-toi devant moi.
Éléonore est venue me voir au tout début de la fondation. J'étais proviseur à ce moment-là en Seine-Saint-Denis, au lycée Jacques Feder à Épinay-sur-Seine.
Jean-François Bourdon.
Avec un projet. Alors, je pensais être dans le canal historique de la Fondation Culture et Diversité. Et avec un projet de théâtre en partenariat avec le Théâtre du Rond-Point et Jean-Michel Ribes. La fondation est la seule qui est arrivée en disant on va co-construire quelque chose et on est vraiment en lien avec l'école. On fait les choses ensemble, ce qui est sa marque de fabrique par rapport à beaucoup d'intervenants qui sont plutôt dans la prestation de services ou le développement de projets qui sont les leurs et pas en lien avec l'école. Et pour moi, la fondation est un modèle d'un partenaire qui travaille avec l'école sans renier l'école. Et c'est vraiment une rencontre.
C'est un libérateur de voix.
Jean-Michel Effet.
Un libérateur de... Les gens parlent à travers ça de choses qui sont souvent contraintes et encadrées dans des raisonnements qui empêchent de penser. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut sortir, notamment sur les territoires et notamment face à une totale incompréhension qui se passe en ce moment par rapport à tout ce qui est l'islamophobie, etc. Et je trouve que ça permet d'écouter. C'est un témoignage qui permet d'écouter, au-delà même de l'approche artistique et de l'approche théâtrale. C'est une résonance, c'est un haut-parleur. Et je pense que des jeunes disent des choses à travers ce véhicule qu'ils ne pourraient pas dire autrement. Ça, c'est une chose qui est importante avec l'éducation nationale. Ça permet d'entendre les choses qui ne sont pas dites ailleurs.
On voit souvent les propositions qui sont faites dans les établissements scolaires des projets qui se doivent d'être innovants. C'est-à-dire qu'il faut changer. La limite, si vous faites 2 ans le même projet, c'est pas bien. Il faut changer. Hein. Le principe, c'est le zapping permanent. Et plus que tout, les établissements, en tout cas d'éducation prioritaire, n'ont absolument pas besoin de zapping. Ils ont besoin de profs présents. Ils ont besoin de profs qui sont là dans la durée. Ils ont besoin de profs qui accompagnent les élèves, qui sont des référents adultes. Et ce qu'apporte la Fondation, c'est la durée.
C'est exact. Mais en plus, surtout le plus important, puisque maintenant on a à peu près 800 ou 900 jeunes qui sont passés par l'improvisation théâtrale, on se rend compte de 2 choses. Que premièrement, leur parcours scolaire s'est amélioré d'une manière considérable. Et que deuxièmement, alors leur épanouissement personnel, alors lui par contre, s'épanouit, s'est libéré complètement. Et je dis toujours qu'au début, ils étaient à la derrière tous les autres élèves, et puis ils se planquaient lorsqu'il y avait des interrogations, et maintenant ce sont parmi les premiers à lever le doigt pour répondre.
Il n'y a jamais de vie ici.
Du moins.
Tu sais de quoi faire où là? C'est son équipe là.
Je m'appelle Shaima, j'ai 14 ans, je suis du collège Courbet, de Trappes. Moi, ce qui m'a poussé à faire de l'impro, c'est que Jamel Debbouze l'avait fait et que dès que j'ai su que c'était Jamel Debbouze qui avait fait ça, j'ai dit waouh, je vais essayer. Et ce qui m'a poussé le plus, le début. Après, j'ai vu comment c'était, le fonctionnement, ce qu'on pouvait faire. On peut se lâcher, on peut dire ce qu'on veut. On joue tous ensemble. On est tous égaux et on dit ce qu'on veut, sans se faire discriminer.
Aujourd'hui, Trappes a perdu, donc vous êtes un peu triste. Mais en même temps, vous êtes allé très loin dans la compétition.
Oui. En fait, moi, je suis triste d'avoir perdu, mais je suis fière de Trappes. D'être venue jusqu'ici, c'est une chance pour moi.
Et sinon, toi, dans 10 ans, comment tu t'imagines?
Je vais rester dans mon but, devenir ministre. Et voilà, sur l'impro, je suis venue juste pour m'amuser et pour me défouler un petit peu avec l'école et tout ça. Donc voilà, je voulais voir l'impro et j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais continuer l'année prochaine.
Bonjour, je m'appelle Raïs, je suis au collège Courbet à Trappes, j'ai 15 ans. Ça fait 3 ans que j'en fais, à Trappes. Ça permet de nous défouler et tout. C'est un plaisir aussi, faire des spectacles devant les gens. Ça fait grandir. Si j'ai l'occasion de devenir acteur ou humoriste, tout le monde peut se révéler sur la patinoire. Et comme ça, on n'a pas honte de nous et on y va, on fonce. Quand on est sur la patinoire, on n'écoute personne, il n'y a que nous.
Alors, je m'appelle Mané Chekna, je joue dans l'équipe de Bordeaux. J'ai 14 ans. Je suis au collège Montaigne à Lormont. Maintenant, j'ai plus la confiance à parler à l'oral et tout ça. Par exemple, si j'ai un truc à dire à l'oral ou voilà quoi. Après, dire qu'on s'est amusé, que voilà, ça nous a fait plaisir ce voyage. Après, comme j'aime bien le théâtre, si je pourrais continuer, voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'égalité des chances?
L'égalité des quoi?
Des chances.
Ben, que tout le monde ait la même chance. Il n'y en a pas d'autres qui soient qui aient plus de chance que d'autres.
C'est important?
Oui, parce que d'un côté, si on a plus de chance, c'est vrai, c'est bien d'un côté, mais après celui qui n'en a pas beaucoup, voilà quoi.
Et toi, tu as de la chance à ton avis?
Oui, d'être choisi parce que voilà, c'est pas tous les jeunes de notre âge qui font des voyages comme ça, voilà. Qui rencontrent des personnes importantes et tout ça.
Et le théâtre, ça aide à ça?
Oui, parce que quand on joue avec la... C'est pas on joue avec un adversaire, c'est on joue avec lui. Il n'est pas contre nous, en fait. On doit jouer avec lui. Et si on ne joue pas avec lui, ben, ça fait qu'on ne fait pas un bon spectacle à la fin.
Ça va bien? Il faut arrêter d'être zen un peu. Faut un peu s'énerver.
Dans la vie, ce qui compte, c'est la zénitude. Madame!
C'est un immense chantier et le travail de la Fondation avec les écoles, c'est une goutte d'eau.
Certain, mais d'abord une goutte d'eau qui devient une flaque d'eau. Donc c'est déjà pas mal. Ça veut dire que ça commence à croître au niveau de ce que peut gérer. Et je crois beaucoup, et c'est aussi l'objet de ma présence dans ce comité de pilotage, je crois beaucoup à l'essaimage de ce que fait la Fondation, de ces techniques pour que d'autres s'en emparent, de cette façon de travailler, pour que ça puisse grandir. Hein. Mais là, il y a vraiment une pépite d'un savoir-faire pour les établissements scolaires et pour les élèves de l'éducation prioritaire, en sachant, et c'est le débat qu'on avait tout à l'heure, la difficulté est aussi d'aller trouver les élèves qui sont dans les mêmes conditions socio-économiques, mais qui ne sont pas regroupés sur un territoire catalogué comme étant éducation prioritaire. Or, statistiquement, on va dire qu'il y a plus d'élèves pauvres ailleurs que dans les zones de pauvres. Et ça, c'est la difficulté à laquelle on essaye de répondre à ce jour.
Victoire de l'équipe de Rochefort sur ce premier match. Je vais donc demander maintenant aux deux équipes en présence de bien vouloir quitter les bancs et de laisser leur place aux équipes de l'Est et de
Ouais, alors cette scène-là, c'était impressionnant.
Elle est grande quand même. Elle est quand même grande. Ouais.
Et toi, le public, tu le regardais?
Bah ouais. La base, c'est de regarder public. La base, c'est il faut regarder public si on veut que la pro soit juste.
Mais les gens, ils rient, ils réagissent. Qu'est-ce que tu fais?
Ça prouve que c'est bien.
Ben ça va, c'était bien. J'ai bien aimé, il y a eu de l'ambiance.
Et toi, qu'est-ce que tu as aimé faire?
La maman, avec le bébé.
Avec Mariam?
Ouais.
C'était drôle de jouer ensemble, toutes les deux?
Ouais, c'est comme ma petite sœur maintenant.
Et vous vous connaissiez avant?
Non, on se connaissait pas. On n'est pas du même collège.
Quand on joue ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut
écouter et...
Être attentif.
Voilà. Attentif et construire. Ne pas tourner en rond.
Faut avancer l'histoire.
Voilà.
Et comment on fait?
Ben, jamais de poser de questions. Toujours accepter les propositions de l'autre. Et lancer un enjeu.
Et quand on rentre sur la scène, et ben on est le personnage. Je me mets dans la peau du personnage. Faut savoir qui
on est.
Faut
savoir communiquer avec les autres. Tu joues ton personnage. Après, tu regardes l'autre et tu communiques avec lui. C'est pas, tu vois, je voulais faire ton
coup. Il faut aussi savoir qui on est, où on est et qu'est-ce qu'on fait. C'est comme un mental. Il faut les gens dans la rue. À un moment, après, ça sert pour une impro théâtrale.
Donc, on a appris un peu à se connaître. On s'est fait des amis. Donc, même si on a perdu, ben, c'est pas grave. Que le meilleur gagne. Hein. Mais on les encourage, voilà.
C'est l'équipe de Lille.
Marc de la Charrière, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité sociétale des grands patrons en France ou ailleurs?
Je crois qu'il faut que tout être humain se mobilise. Bon. Et tout être humain qui réussit. Et il le doit aussi en grande partie dans la société dans laquelle il est né. Bon, Bill Gates n'aurait jamais été Bill Gates s'il a été né dans la brousse africaine. Bon, moi-même, je n'aurais jamais réussi si j'étais né dans des villes les plus difficiles d'Asie ou d'Afrique. Donc, quelque part, c'est très beau de dire toujours, je suis regardé comme j'ai réussi, je suis brillant, extraordinaire, ma réussite est exceptionnelle, grâce à moi, mes talents, ma chance, etc. Oui, peut-être, mais elle est aussi due à l'environnement sociologique, culturel, politique et administratif dans lequel on vit. Et donc, quelque part, c'est quelque chose que les Américains comprennent parfaitement bien, qu'en France, on n'est pas encore tout à fait à ce niveau-là. Aux États-Unis, une personne qui réussit, tout naturellement, se met au service de la cité américaine, soit en donnant de l'argent, soit en se mobilisant personnellement. Et ça, progressivement, ben, j'aimerais aussi que tous les Français qui réussissent se mobilisent aussi au niveau de la cité, dans des différences d'actions, pas exclusivement dans le domaine culturel, mais il y a toute une série d'actions qui peuvent être faites, et c'est important que chacun apporte, fasse son petit ruisseau, petit ruisseau deviendra une rivière et après un fleuve.
Marc de la Charrière, est-ce que l'existence même de votre fondation marque une forme d'échec des programmes de l'éducation nationale en matière d'éducation artistique ?
Nous sommes dans une activité complémentaire entre un État qui ne peut pas tout faire et des fondations privées qui accompagnent les activités de l'État. Car rien ne peut se faire sans l'assistance, l'aide du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale.
Bonjour, moi je m'appelle Nali Christopher, je suis en 3e A au collège Michel Montaigne à Lormont et j'ai 14 ans.
Et pourquoi tu es triste là ? Parce que vous avez perdu ?
Ah, je suis déçu parce que l'an dernier on a gagné, on pensait toujours rester deuxième, mais faire mieux, mais on a perdu, je suis très déçu parce que je pense que peut-être on aurait pu faire mieux quand même.
Qu'est-ce que tu as pensé du discours de Marc de la Charrière tout à l'heure ? Tu sais, le président de la fondation.
C'est bien, qu'est-ce qu'il fait ? Personne ne pensait qu'il allait faire ça. Il a investi beaucoup d'argent. Et c'est pas tout homme qui fait ça dans le monde. Il investit son argent, il nous permet de découvrir. Et voilà, c'est bien. C'est au niveau de la France, c'est une grande personne aux yeux des gens. Tout le monde aurait rêvé de faire ça. On voyage, on connaît d'autres écoles, on joue dans des grands théâtres parisiens. Voilà, c'est exceptionnel. Voilà, papy. Voilà, papy.
Il y a eu des moments magiques de découverte de jeunes que je ne connaissais pas aussi, hein, puisque j'arbitrais le match. Et d'un seul coup, on voit des petits bonhommes, des petites bonnes femmes qui, d'un seul coup, relèvent la tête, prennent possession de l'espace et de cet espace aussi, de l'espace vocal, de l'espace sonore de cet espace. Et d'un seul coup, ils sont là, ils sont à fond dans leur créativité. Ça, c'est formidable. Moi, je trouve ça très beau. Et là, il y a eu plein de moments où, effectivement, on les voit embarqués dans leur histoire. Ils sont à fond. Ils vont passer du cheval. Après, ils vont faire. Ils vont être dans la zénitude. Après, ils vont être dans autre chose aussi. C'est de passer, explorer plein de possibles que je peux faire avec mon corps et avec ma voix.
Aujourd'hui, vous étiez arbitre. Est-ce que le rythme est important ?
Alors là, particulièrement parce que c'est un tournoi, on a 2 heures pour faire 6 matchs. Donc c'était effectivement, il faut tenir le rythme pour pas que ça rebaisse parce que c'est épuisant. Donc là, il y avait une pression temporelle qui était quand même très très forte. Et effectivement, là du coup, d'avoir tout un staff professionnel autour d'eux très aguerri est nécessaire pour leur permettre justement de se donner en toute... Je suis l'arbitre, je suis le méchant. Et en fait, l'arbitre, il est là pour capter toutes les ondes négatives qui pourraient venir du public. Il n'y a qu'un seul méchant dans la patinoire, c'est moi. Et je dois capter les ondes négatives qui pourraient venir du public ou d'autres joueurs pour qu'ils se sentent en sécurité dans cet espace de jeu qu'on leur offre.
Et les fautes éventuelles qu'ils font, c'est quoi ?
Alors, il y a plusieurs fautes. Hein. Là, il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui, mais des fois, c'est un peu de rudesse. C'est imposer à l'autre un personnage, ça, c'est de la rudesse excessive. Ou des retards de jeu, l'histoire qui... Et là, on a vu, des fois, c'est un peu compliqué. On ne s'écoute pas, donc il y a des fautes d'écoute. Donc, il y a plein de fautes comme ça, tout un attirail de fautes que je n'ai pas déployé forcément ici parce qu'on n'avait pas forcément le temps. Mais il y a tout un attirail de fautes qui sont là pour être sifflées au cours du jeu, pour dire « attention, écoutez l'autre, attention, c'est rude, attention, construisez l'histoire ». Et voilà, il y a toute une règle du oui, c'est-à-dire que l'autre me fait une proposition, je suis presque obligé de l'accepter et voir comment je la remets dans l'histoire, je triture avec et je continue à construire l'histoire avec l'autre dans ce qu'il me propose.
C'est une liberté dans un espace réglementé.
Absolument, mais c'est la société. Si vous regardez bien, c'est la société. Il y a des garçons, des filles, il y a un arbitre, il y a la loi. Et dans cette loi, si la règle est bien suivie, ça nous permet de nous éclater. C'est de la poésie, c'est exactement ça. Il faut quelques règles pour pouvoir s'amuser.
Alors là, bravo!
D'accord.
Non mais t'es sérieuse, là?
J'aurais jamais cru ça de ta part.
Comédien, sur scène, raconter notre sketch, faire notre rêve en quelque sorte.
Ben moi, le théâtre, pour moi, c'est une passion, enfin, c'est un loisir. Du coup, je ne m'imagine pas être comédienne, travailler dans le théâtre.
Si je vous réponds de façon réaliste, je dirais je sais pas. Après, si je réponds de ce qui est mon rêve et si tout se passe bien, enfin, ce serait quand même... C'est quand même très rare que des gens comme moi aient leur chance pour ça. Pour l'improvisation, oui, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup être actrice et en vivre et jouer dans les films. Et voilà, parce que c'est vraiment ma passion. Ça m'est arrivé quelques fois et j'aimerais vraiment renouveler ça. Mais en tout cas, même si je ne fais pas dans ces métiers-là, même si je ne suis pas comédienne ou que je fais dans le cinéma, je réutiliserai, ça c'est sûr, ce que j'ai appris avec le théâtre. Ça nous aura permis d'avoir une première expérience. Comme nos coachs nous disaient, même eux en tant que comédiens, ça leur arrive rarement de jouer dans une salle comme ça avec autant de gens, donc ça permet d'expérimenter ça et de se préparer si on veut faire quelque chose plus tard.
Allons-y, allons-y, allez, on se check rapidement et on s'installe, car voici arrivé le moment solennel, puisque les joueurs ici présents vont donc entonner l'hymne officiel du trophée d'impro, culture et diversité. Mesdames, messieurs, les joueurs, c'est à vous pour l'hymne. C'est parti!
C'est parti! Improviser, c'est ça qui me plaît. Improviser, oui, ça le fait. L'impro, on l'a sur nos maillots. L'impro, on l'a mis dans la peau. Improviser, c'est ça qui me plaît.
Merci à Éléonore Ladré de la Charrière, Jean-François Bourdon, Jean-Michel Ribes, Julie Macaire, Cédric Lecet. Merci à Marc Ladré de la Charrière, Marie-Nicolardo, Antoine, Cisco et Papy. Merci aux élèves des collèges de Lille, Brest, Bordeaux, Trappes et Rochefort.
Qu'on soit en mixte ou bien en comparé, on est là pour se trouver. Alors on chante, alors on danse, on se transforme, on tente la chance.
Coordination, Irène Omelianenko.
Improviser, c'est ça.
Attaché de production, Christine Bernard et Alison Sinard.
Ce combat, on s'aime d'amour.
Prise de son, Jean-Marie Porcher, Bernard Quentin. Mixage, Philippe Thibault. L'impro, on l'a tous dans la peau. Un documentaire de Claire Pouli-Borgeot, réalisé par Anna Smuk pour Sur les Bras.
Merci beaucoup, les joueurs.
Voilà, merci pour écouter ce documentaire. C'est sur franceculture.fr.